Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Lola Berthet, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Élise Christophe. La gourmandise de ce matin, ce sont les mots de Solzhenitsyn cités par Georges Niva dans sa préface au pavillon des cancéreux. Les voici. Avec sérénité, je peux dire que j'accomplirai ma mission d'écrivain en toutes circonstances et même dans la tombe, car alors mon action sera encore plus forte et plus indiscutable que moi vivant. Personne ne peut barrer les voies de la vérité, et pour le progrès de la vérité, je suis prêt à accepter même la mort. Mais peut-être de trop nombreuses leçons nous apprendront enfin à ne pas arrêter la plume d'un écrivain encore vivant. Notre apothicaire de l'âme a construit sa vie autour de la création, qu'il conçoit et défend grâce à ses deux métiers. Dans l'univers régi par la loi, il est avocat, spécialiste des droits d'auteur, professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles et compte ou a compté parmi ses clients Tintin, le roi des Belges et Magritte. Alors, cette phrase gagnerait en véracité avec plus de précision, mais le charme du surréalisme l'emporte. Dans l'univers qu'aucune loi ne régit, il est écrivain et l'auteur d'une quinzaine de romans et récits. L'Académie de langue et littérature française de Belgique écrit à son propos, j'ai oublié un deux, je vous prie de m'excuser, d'une cohérence évidente. Son travail témoigne sous une apparence légère et ironique d'une réflexion constante sur la justice, la démocratie, la solidarité et des indignations que peuvent susciter les manquements à l'égard de ses valeurs. J'ai donc face à moi un homme de loi, un inventeur, un enquêteur, un chroniqueur, notamment dans le quotidien belge Le Soir, et un médicament, puisque l'un de ses deux créateurs était pharmacien. Bonjour Alain Berenbaum.
Bonjour Eva.
La première question de cette émission est inévitable, Alain Berenbaum. Vous la connaissez, c'est ce que vous m'avez dit hors antenne, et je suis très curieuse de votre réponse, puisque vous avez quand même écrit un récit biographique sur vos parents, alors arrivés en Belgique dans l'après-guerre, qui s'appelle donc Monsieur Optimiste. Et donc ça c'est votre père, Monsieur Optimiste. Quel est vous, votre rapport à la mélancolie ?
Oui, ça a l'air contradictoire avec le titre de votre émission. Écoutez, mon rapport à la mélancolie remonte à ma naissance, ou plus exactement à ma conception. Parce que mes parents, dont on va parler, mon papa et ma maman, m'ont conçu dans la fièvre et la joie de la libération de Bruxelles par les troupes alliées. Et ils ont fêté ça, et voilà, vous avez le résultat à votre micro. Ils ont fêté ça, mais ne m'ont pas beaucoup ensuite parlé de ce qu'a été leur vie pendant la guerre, où ils vivaient cachés, ils étaient juifs, donc le vent était mauvais, mais ça pesait sur mon enfance,
gravité.
Ce qui s'est passé, la disparition de ma famille aussi et de leur famille. Et donc, j'ai quelque part appris que je n'ai pas droit à la mélancolie. La mélancolie, c'est une espèce d'exercice d'apitoiement sur soi-même et qui n'est pas de mise quand on vient d'une famille qui a vécu ça. Et puis aussi, je dirais, aujourd'hui, quand on voit tout ce que l'on voit autour de nous et ces dernières années comme horreur. Donc, je dirais la nostalgie, oui. La mélancolie, non. Désolé, Eva.
Non, mais j'accepte que vous ne soyez pas un grand mélancolique, Alain Berenbaum. Mais ça me fait réagir ce que vous dites. Alors déjà, pour l'anecdote, je veux juste dire aux auditeurs, et c'est assez amusant, quand vous étiez petit, votre père, donc pharmacien, vous donnait des bouchons d'alcool à sucer pour calmer vos pleurs. C'est le premier remède à la mélancolie.
C'était ça le premier remède, oui, absolument. Dès que je commençais à pleurer, hop, un peu de vodka.
Et concernant la nostalgie, qui donc, à la différence de la mélancolie, concerne un espace donc spatio-temporel, et donc un moment qui a vraisemblablement existé, parfois on l'idéalise, mais on est en deuil de quelque chose qu'on imagine avoir existé, alors que la mélancolie, ça peut être un deuil sans objet. Vous dites, donc, dans votre dernier roman paru aux éditions Genèse, Le rêve de Harry, l'une des dernières phrases, je pense que je peux la dire sans gâcher l'histoire, c'est de toute façon, à quoi sert l'histoire, avec un grand H, sinon à encourager la nostalgie, mère de tous les vices. Alain Berenbaum, vous avez un rapport assez ambigu à cela, puisque malgré tout, la littérature, c'est toujours une enquête. Donc vous remuez le passé, et dans Monsieur Optimiste, vous dites que dans votre famille, on ne remuait absolument pas le passé.
Oui, mais vous savez, les écrivains sont des grands menteurs, donc
oui,
de toute façon...
ça me rassure, et les avocats encore plus. Et,
oui, là je vous laisse la responsabilité de ce que vous venez de dire, j'exerce toujours. Et si des juges nous entendent,
mais pas en pénal, vous n'êtes pas en pénal.
Voilà, je suis pas en pénal. Mais non, si vous voulez, j'ai le sentiment que la mélancolie, c'est l'apitoiement sur soi-même, et la nostalgie, c'est le rêve des autres. Je vais effectivement, comme la plupart des écrivains, puiser dans la nostalgie, c'est-à-dire dans le rêve d'un, comme vous le dites d'ailleurs, d'un passé idéalisé meilleur. Ou parfois d'un présent idéalisé meilleur, mais qui a déjà passé, puisque quand on écrit un livre, même en utilisant le présent, lorsque le lecteur le lit, c'est déjà le passé. Et donc, la nostalgie me paraît être des remèdes essentiels à la survie de l'espèce. Alors, plus que le Covid.
Oui, ça a tout plus que le Covid.
Quoique,
bah, le temps nous le dira, l'histoire avec un grand H nous le dira. En tout cas, j'annonce le sommaire des réjouissances, puis on va essayer d'éviter de parler de choses si tristes et si tragiques.
Oui, oh oui.
On est tous avec des masques, voilà, on ne se voit plus. Enfin bon, je ne vais pas commencer. Dans quelques instants, Alain Berenbaum, vous allez convoquer Ettore Scola, Les Pouilles, l'écriture, une plume nigériane, une ligne occupée, une certaine Mini et un reporter à Houpette, juste après The Liminianas et Nouria Calentita.
C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
Agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao. Agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao. Calamares.
Nu sur la plage.
Chipirones.
Je joue du sitar.
Bocadillos.
Je sais.
Mejillones.
Tu es accablé.
Calamares. Chipirones. Bocadillos.
Tu répètes sans cesse.
Mejillones.
Les mêmes mots.
Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne, te fait de l'effet. Tu es accablé. Sur la plage bondée, il est 10h15. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà.
Beba Fanta.
Mais tu ne le sais pas.
Chupa chups. Pan casero. Motifarra. Higo chumbo.
Tu répètes sans cesse les mêmes mots.
Sobrasada. Pan casero, botifarra, higo chumbo.
Je n'utilise mon peigne
sobrasada
qu'une seule fois.
Calentita, pollo frito.
Puis je le lance sur toi.
Vino tinto, jamoncito. Calentita,
tu ne ramasses pas.
Pollo frito,
tu dis.
Vino tinto, jamoncito.
Tu es accablé.
Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
Un hippie qui s'approchait. Tu as souri. Et tu lui as dit
marijuana, 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 marijuana.
Marijuana. Marijuana.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de l'avocat et écrivain Alain Berenbaum.
Luciani, con Gianni sarei più felice, c'è una carriera. Io, se c'è una via chi la davo a Gianni, mica a me.
Ah sì, mi avresti fatto male, tu sei migliore di me.
E io invece la davo a te, sei tu meglio di me.
Beh sì, ma...
Ma cosa dite? Sembrate due scemi. Tu sei meglio, non sei meglio tu. La colpa è soltanto mia. Voi non c'entrate. Però vorrei che restaste amici. Non è possibile.
C'est assez inédit dans l'histoire de l'émission, Alain Berenbaum, mais ce film a été choisi la semaine dernière par Françoise Nyssen.
Mais non.
Mais si, et donc je pense que ce film est le remède le plus efficace qui soit, puisqu'il revient souvent dans l'émission, mais là, deux semaines d'affilée, c'est assez rare.
Encore une Belge.
Oui, encore une Belge. C'est un film donc de 1974, nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola. 30 ans d'amitié de compagnons de résistance, et là dans la scène qu'on entend, il y a Gianni et Antonio qui se disputent les faveurs de Luciana.
Stefania Sandrelli.
Oui, et qui enjoignent Luciana à choisir l'autre en disant non, je ne suis pas assez bien pour toi, l'autre est meilleur et tout ça. Et elle leur dit mais vous êtes idiots, je voudrais juste que vous restiez amis. Pourquoi ce choix ? Alain Berenbaum précise pour les auditeurs que vous êtes un cinéphile exemplaire, c'est-à-dire que tous vos livres sont parsemés d'allusions au cinéma. Vous êtes administrateur de la Cinémathèque Royale de Bruxelles.
De Belgique.
De Belgique, pardon. Oui, de Belgique, mon pays favori.
Voilà. Écoutez, je pense qu'il y a eu une espèce de moment de grâce dans l'histoire du cinéma qui est l'arrivée de la comédie italienne vers la fin des années 50, disons à partir du Pigeon de Monicelli, déjà avec Gassman. Et Mastroianni, et puis qui va jusque dans les années 75, quelque chose comme ça. Et c'est extraordinaire, pendant ce moment-là, il y a eu cette espèce de grâce, c'était du Chaplin italien des années 60, c'est-à-dire ce mélange fabuleux et tellement difficile entre le rire et les larmes, entre la nostalgie dont nous parlions et la vie qui continue. Et ce film, Scola est lui-même un scénariste, pas seulement un réalisateur, et donc son scénario est parfait, parce que il raconte en même temps les années qui passent, puisque dans ce film, les personnages au début sont jeunes, idéalistes, pleins d'allant, et puis peu à peu, on va les voir vieillir, et on va voir ce que sont devenus les rêves justement de leur jeunesse, et chacun des personnages se recroisent et ça donne lieu à des scènes à la fois désopilantes et où en même temps on a envie de pleurer. Et voilà, c'est ça, je trouve, une grande œuvre d'art, que ce soit littéraire, cinématographique, c'est le rire et les larmes mélangées.
Alain Berenbaum, votre cinéphilie ne date pas d'hier, puisque déjà petit...
Dieu.
Oui, mais parce que dans Monsieur Optimiste, vous racontez qu'on vous emmenait au Victory, au Métropole, au Cinémax, au Cinéac. Ça fait rêver, et puis il y a
Je vous montrerai, c'est ça, là, Bruxelles. Malheureusement, oui. Elles sont fantômes pour l'instant.
Mais alors, écoutez, tant pis pour vous, je prends votre invitation au pied
Absolument.
De la lettre et je viendrai. Tant pis pour vous, Alain Berenbaum.
1h25 de train.
Oui. Et alors, dans le rêve de Harry, il est question du Crystal Palace, un lieu abandonné qui ne trouve pas preneur, au grand dam du narrateur. Et le cinéma est partout. D'ailleurs, dans le rêve de Harry, chaque chapitre a le nom d'un film.
Oui, 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 c'est ça. En fait, je suis nourri, en effet, de cinéma, mais il faut dire que le cinéma, c'est la culture la plus cosmopolite qui existe.
Et accessible.
À la fois, je veux dire, quand je parlais de Chaplin, en 1917 ou 1918, des courts-métrages de Chaplin faisaient rire de la même façon les petits gosses de New York et les petits gosses de Shanghai. Et ça n'existait pas dans l'histoire de l'art jusque-là. Et je trouve ça extraordinaire. Et à cela s'ajoute le fait que pour la première fois aussi, toutes les classes sociales se retrouvaient dans les salles de cinéma. Et ça, c'est aussi l'extraordinaire merveille du cinéma. Alors, quand on est comme moi d'origine juive, c'est-à-dire comme on dit cosmopolite, forcément le cinéma, c'est l'art des cosmopolites. Donc, je m'y retrouve tout à fait.
Alain Berenbaum, il paraît qu'en 1976, en tant qu'avocat, vous avez pris la défense du film L'Empire des Sens, interdit au cinéma par les magistrats belges.
Oui, le film a été saisi en effet en 1976 pour obscénité, outrage aux bonnes mœurs, et la justice belge ne s'est pas vraiment illustrée, ou alors c'est l'avocat qui s'est pas illustré, puisque le film a été condamné et en appel, et même en cassation. Il a fallu bien des années pour que ce film sorte sur les écrans, alors que on pouvait déjà le voir, je sais pas moi, sur au Ciné-Club d'FR3. Donc la Belgique a été très très à la traîne dans les affaires de mœurs, de bonnes mœurs en matière de cinéma et même de théâtre d'ailleurs. Un grand dramaturge que vous avez déjà évoqué, Hugo Claus, avait été condamné aussi pour une pièce de théâtre qui avait été représentée dans le cadre du festival de Knog.
Bon, je pense évidemment à Flaubert et à Baudelaire, à qui j'envoie mes amitiés. Alain Berenbaum.
Comment va-t-il ?
Oui, je crois qu'ils vont pas très bien depuis quelques décennies. Vous avez évoqué le fait que vous étiez un homme cosmopolite, Alain Berenbaum, et nous voici partis en Italie. Combattre le spleen, Alain Berenbaum, vous aimez vous promener dans le talon de la boîte italienne, les Pouilles, remède qu'on a choisi d'introduire par la Tarantella del Gargano, trouvée par Eliane Girard, chantée par Marco Bisley, accompagné d'Alfio Antico, car la tarentelle, en plus d'être une danse typique de la région, est censée posséder des vertus thérapeutiques contre les morsures de tarentules qui engendrent, évidemment, vous le savez, je ne vous apprends rien, la mélancolie.
Alors,
pourquoi les Pouilles ?
Donc, il n'y a pas de mélancolie dans les... D'abord parce qu'il n'y a pas de mélancolie dans les Pouilles.
Ah oui, grâce à la tarentelle.
Grâce à la tarentelle. C'est une région fascinante. Il y a... D'abord parce que... Vous savez que dans certains villages des Pouilles, il y a un patois qui est encore du grec. Du patois dérivé du grec qui était les envahisseurs il y a combien de siècles ? 25 siècles. Et c'est fascinant de se dire que cette région d'Italie est justement une région cosmopolite, alors que ça a l'air d'être italo-italien. Pas du tout. C'est une région où tout le monde est passé. Les Normands, les Espagnols, les Français, même les Français. Et donc un Belge si se promène dans une région qui a l'air d'être profondément italienne, extraordinairement baroque, parce qu'il y a une accumulation de petites villes baroques construites généralement au XVIIIe siècle, et qui est en fait une extraordinaire plateforme de la Méditerranée vers la Turquie, vers l'Afrique du Nord et vers l'ouest de la Méditerranée. C'est une région magnifique. Et la qualité de l'air aussi est tout à fait extraordinaire. Il y a une espèce de transparence que moi je n'ai ressentie nulle part ailleurs.
Mais c'est vrai que c'est un endroit marqué par un patrimoine architectural très impressionnant, avec les nombreux passages sur ce territoire, des Grecs, des Romains, des Sarrasins, des Byzantins, des Normands, des Souabes, des Aragonais. Et alors justement, on revient toujours à votre aura cosmopolite, Alain Berenbaum, puisque vos romans se passent sur tous les continents. Et vous dites que votre père était donc polonais, votre mère lituanienne, enfin elle est née à Vilnius qui était russe à l'époque. Ils ont immigré en Belgique dans les années 30. Et vous vous dites né entre la littérature française, le surréalisme belge et les romans russes. Ça vous constitue vraiment, ces trois aspects.
Mais je pense que de façon générale, la littérature belge, qui est une littérature de marche, forcément, est une littérature...
Comment ça, une littérature de marche ?
Des marches de l'Empire, si vous voulez. C'est des marches de l'Empire, donc, aux marches de l'Empire, on est à la frontière du monde germanique, à la frontière du monde anglo-saxon, à la frontière du monde français, et avec des larges traces aussi d'Espagnols, puisque les Espagnols ont occupé pendant de nombreux siècles la Belgique, et une immigration qui est considérable à Bruxelles, il y a 120 nationalités, donc sans compter ceux qui sont cachés et sans papier. Donc il y a un mélange extraordinaire en Belgique qui donne, je crois, son ton particulier à la littérature belge, c'est-à-dire qu'il y a en effet, dans la littérature belge, un mélange d'influences qui fait que un écrivain belge n'est pas tout à fait un écrivain français, même quand il écrit en français.
Est-il vrai, Alain Berenbaum, que vous avez eu comme professeur de néerlandais le cinéaste André Delvaux ?
Ce qui explique pourquoi j'ai eu tant de difficultés à parler néerlandais, oui. Parce qu'évidemment, il parlait cinéma et en français. Et c'était une classe, il avait créé une classe expérimentale de cinéma dans notre lycée. Et pendant 6 ans, on a appris, en effet, le cinéma à tourner. Et puis surtout, il m'a appris la grammaire du cinéma. Et il nous a montré les classiques. Je savais pas qu'il y avait des films déjà avant ma date de naissance. J'ai découvert qu'il y avait un cinéma avant ça. C'est incroyable quand même.
Quand je regarde mon escarcelle, je suis incapable d'écrire à jet continu. Je ne peux écrire que ce que je pense, et même le plus mauvais de mes romans, c'est un roman que j'ai pensé pour me faire plaisir à moi et pour faire plaisir aux gens qui me suivent, car je suis très respectueux de mes lecteurs. Je ne voudrais pas déchoir à leurs yeux. Alors je fais toujours des choses qui sont honnêtes, quoi, c'est ça, c'est le mot. Je continue à avoir la même rigueur, cette rigueur que m'a enseigné Breton. Je le regrette. Si je pouvais écrire un bouquin en 4 jours, écrire n'importe quoi, en donnant de la saleté au lecteur, je serais certainement châtelain.
1976, c'est truculent, c'est l'inventeur de Nestor Burma, Léo Mallet.
Ah, Léo Mallet.
Dans A Voix Nue sur France Culture. Mallet, que vous affectionnez, Alain Berenbaum.
Oui,
tout comme Raymond Chandler ou Charles Williams, auquel vous rendez hommage dans votre série policière, entamée en 2008 et habitée par le détective Michel Van Loo.
Bien prononcé.
Oui, mais je vous ai demandé avant, j'ai un peu triché, parce qu'évidemment, oui, nous, les Français, on prononce mal les langues, et on a envie de prononcer le double O ou. Parallèlement à votre carrière d'avocat, Alain Berenbaum, on l'a dit, voilà 3 décennies que vous écrivez, et c'est une chance, puisqu'il s'agit de l'un de vos remèdes anti-spleen. Vous alternez entre différents types d'écriture, et d'ailleurs, vous dites que les Français s'y perdent, puisque nous, on aime cataloguer les choses. Vous ne vous embarrassez pas de cela. Vous passez du polar au récit biographique, à la comédie, à la... Non, c'est pas vrai. Vous dites que vous écrivez dans plusieurs styles, mais je me rends compte qu'il y a toujours des enquêtes dans chacun de vos livres, d'une façon ou d'une autre.
En fait, oui, mais... c'est vrai que j'aime bien j'aime bien des livres mélangés, c'est-à-dire que à la fois c'est des romans, à la fois c'est des comédies, à la fois c'est des drames, à la fois c'est des romans d'aventure. Et donc c'est très difficile, c'est vrai, à étiqueter. Par exemple, je me rappelle que mon premier roman, qui s'appelait hélas La position du missionnaire roux, s'est retrouvé dans les romans érotiques à la Fnac immédiatement. Bon, et puis j'ai écrit il y a pas très longtemps un roman qui est un roman qui s'appelle Hong Kong Blues, qui est le spleen de Hong Kong au moment de la révolution des parapluies il y a 5 ans. Et comme pas mal de libraires connaissaient mes enquêtes de Michel Van Loo, crac, Hong Kong Blues, avec son titre peut-être aussi, se retrouve au rayon polar. Et donc j'ai souvent eu un malentendu. Et ce malentendu, bon, j'en suis responsable. C'est parce que c'est vrai que je mélange des genres, mais souvent dans un même livre.
Quand vous écrivez, Alain Berenbaum, il n'y a jamais de souffrance. On sent un amusement dans votre écriture.
Ah oui, je n'ai pas du tout l'angoisse de la page blanche, et je ne me pends pas parce que ce jour-là, je n'ai écrit que 2 lignes. L'écriture, c'est vrai, c'est une nécessité, c'est une nourriture, et j'en ai besoin. Je disais au début de l'émission que la plus grande partie de la famille a disparu au moment de la guerre, donc on n'est pas très nombreux, et écrire m'a permis de constituer une famille nombreuse, hélas pas remboursée par la sécurité sociale, mais j'ai ainsi... Je me suis amené un certain nombre de cousins, cousines, oncles, plus ou moins sympathiques, parfois très antipathiques. Mais voilà, maintenant j'ai une grande famille et j'en ai besoin.
C'est très joli. D'ailleurs, dans Monsieur Optimiste, Alain Berenbaum, vous dites que vous refusez d'enterrer vos parents. Tout simplement. Dans un instant, on découvrira votre sérum littéraire, juste après un titre de la playlist France Inter, Ferris Wheel, de Sylvain Esso.
August in the heat, sweaty in the street, tilt-a-whirling,
whirling, whirling.
I can feel your eyes, find me in the crowd, think you like me now.
La, la, la.
I've been seeing you every day, on my block in your white tee. You're looking pretty fine to me, so why are you waiting? When I'm slamming in my dancing shoes, asphalt top and my knees all bruised. It's a summer, got a lot to prove, can't wait to do it, can you?
Now!
Oh, I'm swaying from side to side, in the neon lights, singing in the wonder world, got vibes.
You're divine for tonight.
Take me, me, Ferris wheeling, babe. It's the air I crave.
Sur France Inter, toujours en compagnie d'Alain Berenbaum qui a choisi de nous parler du roman très remarqué lors de sa sortie en 2013, et ce n'est pas pour rien puisqu'il est absolument formidable, Americana, de l'écrivain nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, roman dont les droits d'adaptation cinématographique ont été achetés par l'actrice et réalisatrice Lupita Nyong'o. Alors Ngozi Adichie,
vous l'apprenez.
Oui, je l'ai découvert en préparant l'émission. Elle vit entre Lagos et Washington, et alors je ne sais pas si vous le saviez, Alain Berenbaum, mais elle a débuté des études de médecine de pharmacologie au Nigeria.
Oui, elle le raconte d'ailleurs dans son premier roman qui s'appelle Hibiscus pourpre. Hibiscus pourpre, qui est une merveille et qui se passe pendant la guerre du Biafra. Et donc, c'est pas elle,
ce
évidemment.
Pays éphémère.
Oui, c'est ça, ce pays éphémère début des années 60 qui a tenté la sécession et qui a été. Cette sécession a été réprimée de manière extraordinairement cruelle. Et donc, le personnage, en tout cas, fait des études de médecine, donc j'imagine qu'elle se projetait dans ce personnage-là.
Et dans Americana, vraiment, pendant la lecture, on est soufflé de tant d'intelligence. Moi, j'ai la chair de poule quand j'évoque ce roman. Il y a une intelligence remarquable à chaque page. Elle arrive à nous plonger dans la tête de chacun des personnages en l'espace d'une seconde. Il n'y a pas une seule ligne où on s'ennuie. C'est extraordinaire.
Oui, je trouve aussi que c'est un véritable, pour moi aussi, c'est un véritable coup de foudre. C'est les trois romans, je crois qu'il y a trois romans qui sont parus. Les trois romans, c'est des coups de foudre. Chacun de ces romans est très différent. Ceci, Americana, c'est pour la première fois son lien entre le Nigeria et l'Amérique. Extraordinaire, parce que quand elle débarque en Amérique, elle dit c'est la première fois que je me rends compte que je suis noir. Tout est dit. Enfin, c'est extraordinaire. C'est déjà l'Amérique de Trump qui est là dans la confession du personnage lorsqu'elle rentre à Lagos et qu'elle dit ça. Et il y a en effet, comme vous le dites bien, une espèce de fièvre, de folie dans la manière dont écrit Adichie. Et aussi d'intelligence tout à fait extraordinaire, c'est magnifique. On attend, elle va nous donner encore quelques très grandes œuvres. Cette femme, on l'attend avec impatience, parce qu'entre-temps, elle a plutôt fait des essais. Et
oui,
donc,
We Should All Be Feminists, voilà. Notamment.
Et donc, j'ai envie de lire ses romans.
Et alors justement, Alain Berenbaum, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un passage de Americana ? Alors, pendant que vous cherchez, je précise aux auditeurs qu'on suit les aventures d'une jeune femme nigériane, Ifeme Lu, qui a immigré aux États-Unis, et de son grand amour avec lequel elle ne va pas se mettre tout de suite. Enfin, je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit.
Évidemment, mais on sait bien, ça tourne toujours comme ça dans les romans.
Oui.
Les romanciers sont des pervers.
C'est vrai, puisque vous savez pourquoi ce sont des pervers ? Parce que les choses se passent bien parfois dans les romans. Donc c'est vraiment pas réaliste.
Non, c'est totalement pervers, non. Ça.
Alain Berenbaum, on vous écoute.
Alors, c'est le début du chapitre 3. Mariama finit de coiffer sa cliente, vaporisa de la laque sur ses cheveux, et lorsqu'elle fut partie, annonça « Je vais chez le Chinois ». Aïcha et Halima lui dirent ce qu'elles désiraient. Poulet très épicé du général Tiao, elle le poulet à l'orange, avec la rapidité de ceux qui répètent tous les jours la même chose. « Vous voulez quelque chose ?» demanda Mariama à Ifeme Lu. « Non, merci. Tes cheveux prennent longtemps, tu as besoin de manger ?» dit Aïcha. « Tout va bien, j'ai une barre de muesli, » dit Ifeme Lu. Elle avait aussi des carottes naines dans un sac Ziploc, mais n'avait encore goûté qu'à son chocolat fondu. « Quel genre de barre ?» demanda Aïcha. Ifeme Lu montra la barre bio, 100% céréales complètes avec de vrais fruits. « C'est pas de la nourriture !» se moqua Halima qui tend les yeux à la télévision. « Elle est ici depuis 15 ans, Halima, » dit Aïcha, comme si la durée du séjour en Amérique expliquait pourquoi Ifeme Lu mangeait une barre aux céréales. 15 ans, beaucoup de temps.
Americana, avec un H à la fin, c'est comme ça qu'on surnomme justement ceux qui ont vécu un peu trop longtemps à l'étranger, notamment aux États-Unis, et qui reviennent ensuite au Nigeria, de Chimamanda Ngozi Adichie, un chef-d'œuvre. Classique du swing de 1931, Minnie the Moocher, Minnie la clocharde en fait, écrit et composé par Irving Mills et Cab Calloway, et repris par l'actrice, danseuse et chanteuse américaine Valaida Snow, qui donne son nom à l'un des chapitres de votre roman Péril en ce royaume, Alain Berenbaum. Moi aussi, je suis un détective privé. Je ne sais pas si vous connaissez sa vie
extraordinaire,
très romanesque.
Elle a été arrêtée par les Allemands en 1940 parce qu'elle était en tournée au Danemark. Elle était enfermée dans un camp.
C'est ce qu'elle raconte.
Absolument, c'est ce qu'elle raconte.
Oui.
Et les Américains l'auraient échangée un an plus tard. C'était encore avant que les Américains n'entrent en guerre. Bon. Elle est rentrée apparemment en mauvais état aux États-Unis. Ça, tout le monde le dit, et la voix était un peu éraillée, elle était... Bon, il s'était passé des choses au Danemark pendant l'occupation par les Allemands, et... Mais c'est un personnage. Il y a quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un romancier qui a fait un français qui avait fait un roman sur Valéria Snow il y a quelques années. Elle a une verve, un entrain, une folie tout à fait extraordinaire. Et on la voit dans un film avec Maurice Chevalier.
Avec lequel elle a flirté, paraît-il.
Oui, qui n'a pas flirté avec Maurice Chevalier?
C'est vrai, personne dans ce studio n'a pas flirté avec Maurice Chevalier.
Moi, j'ai flirté avec Maurice Chevalier.
Moi aussi, j'ai flirté avec Maurice Chevalier. Voilà. Donc, elle joue dans un film avec lui.
Oui, Maurice Chevalier en 1937, quelque chose comme ça. J'ai malheureusement oublié le nom de ce film-là. Et où on la voit chanter. Bon, on a très peu d'images de Valéria Snow. J'ai cherché sur YouTube. Il y a quelques extraits. Et là, un abattage à la Joséphine Baker, en fait. C'est formidable.
Alors, autre antidote musicale, Alain Berenbaum, il date de 1950. C'est Busy Line par la chanteuse et pianiste de jazz américaine surnommée The Squeak, le Queenement, à cause de sa voix aiguë, Rose Murphy. Alors, on va l'écouter, mais j'aimerais vous entendre.
On l'appelait aussi Madame Chichi.
Chichi.
Parce qu'elle fait souvent Chichi dans ses chansons.
Elle fait des onomatopées, en effet. Un petit mot dessus avant qu'on écoute cette chanson.
Écoutez, c'est encore un de ces personnages délirants que j'adore. Elle était à la fois pianiste et chanteuse, donc elle s'accompagnait au piano, et elle tapait d'ailleurs dans le piano pour faire la batterie. Donc c'était très bon marché pour les organisateurs de spectacles. Et alors, les amateurs de jazz intellectuel ne s'y retrouveront absolument pas.
Eh bien, c'est pour eux qu'on passe cette chanson.
Voilà.
Busy Line par Rose Murphy.
Telephone, dial my baby's number, got a busy line. Each time I dialed, got a busy tone, not my baby's number, just a busy line. Called his uncle in Jamaica, left a message with the baker, even checked the number in the telephone book. So awfully, awfully worried. To my baby's house I hurried. When I looked inside, the phone was off the hook. And as I walked up to my baby then, I got my baby's number. He was busy in the parlor doing fine. Busy kissing someone else while I was keeping busy. Getting a busy line. With the baker, even checked the number in the telephone book. Got so awfully, awfully worried. To my baby's house I hurried. When I looked inside, the phone was off the hook. And as I walked up to my baby then, I got my baby's number. He was busy in the parlor doing fine. Busy kissing someone else. Was keeping busy, getting a busy life.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Alain Berenbaum.
Je crois que tout auteur, quel qu'il soit, y compris un auteur de bande dessinée, se met lui-même, se projette sur ses personnages. Et je crois que Tintin, c'est une partie de moi-même qui aurait voulu être un héros, qui aurait voulu être un reporter, comme vous, simplement, pour commencer. Et puis c'est le capitaine Haddock avec mes colères.
Ah, vous êtes aussi capitaine Haddock.
Mais oui, je suis tout ça, je crois que...
Vous êtes la Castafiore aussi.
Aussi, oui.
Ah bon?
Oui, parfois, ça
parce
m'arrive.
Que vous auriez voulu être une vedette de l'opéra
non,
comique
Non, mais les principaux personnages, je me retrouve en eux parfois. quoi. Je crois que c'est vrai, je crois que c'est.
Et vous dites Dupont et Dupont, c'est moi ?
Oh oui, aussi. Oh oui, je commets. Quand je fais des bêtises, ça m'arrive de faire des bêtises.
Le dessinateur Hergé dans Apostrophe de Bernard Pivot en 79. Comme œuvre d'art, Alain Berenbaum, vous avez choisi Les Aventures de Tintin, né pour l'anecdote en 29 dans l'hebdomadaire illustré destiné à la jeunesse, Le Petit 20e. Tintin, c'est pour vous une inspiration. C'est aussi vous, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, qui défendez les héritiers de Tintin, la société Moulinsart. Et la découverte de Tintin, ça a été une claque pour vous, Alain Berenbaum. C'est votre mère, en passant devant une librairie, qui vous a acheté le crabe aux pinces d'or.
Oui, c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert, au fond, la bande dessinée. Ma maman m'a acheté en seconde main, bien entendu.
Oui, parce que votre mère était très, très économe. Vous dites ça, c'est un euphémisme, peut-être.
Oui, sur son lit de mort, d'ailleurs, je lui ai juré que je n'acheterai jamais que pendant la période des soldes.
Sur son lit de mort, parce que là, vous me faites penser à la plaisanterie de Woody Allen qui dit « Ah, cette montre, c'est mon grand-père qui me l'a vendue sur son lit de mort.
» Oui. Et donc, le crabe aux pinces d'or, ça a été tout de suite... Parce que ce qui est magnifique, évidemment, chez Hergé, c'est que, à la fois, c'est graphiquement absolument magnifique, la simplicité, la ligne claire, comme on dit en bande dessinée, donne une œuvre d'une modernité extraordinaire dès la fin des années 20. Il y a, dans son écriture, parce que c'est un écrivain aussi, je le range parmi les écrivains, Hergé. Ces livres sont des histoires à la fois très profondes, je pense au Lotus Bleu par exemple, et en même temps il y a une extraordinaire dérision, c'est très typique de sa culture bruxelloise. Il a d'ailleurs, à côté de Tintin, publié une série d'albums qui s'appelle Les Aventures de Quick et Flupk, gamin de Bruxelles, dont on entend... C'est en français, mais on les entend parler bruxellois, qui est un mélange de patois français et néerlandais de Bruxelles. Et il y a cette dérision, cette façon de ne jamais se prendre au sérieux, surtout lorsqu'on parle de choses sérieuses. Et c'est ça que m'a appris, au fond, Hergé. Il parle de grands problèmes politiques. Enfin, le Lotus Bleu, ça sort en pleine guerre entre le Japon et la Chine. L'île mystérieuse, même si c'est un livre très contesté, très controversé. Il sort en 1940... Et il y a un certain Blumenstein qui est l'ennemi dans le livre. Bon, ça tombe mal. Bon, mais en même temps, ça signifie qu'il est le reflet de son temps. Il parvient, en faisant soi-disant des livres pour la jeunesse, à raconter l'histoire de son temps et la politique de son temps. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en littérature.
The end of the thing, the last scene. They didn't really get it until the night before we shot it. And we shot it last. And they weren't sure what the last line should be.
We needed a final line, a final line. A spleen shattering belly laugh. Then Yes came up with Nobody's Perfect. We were not crazy about it, but it was late at night and we were pooped. So we decided, let's put it on paper so they can mimeograph it, fully expecting to find something really funny when the time came to shoot the scene. That just goes to show you how little we know.
On entend Jack Lemmon et Billy Wilder qui rendent hommage au scénariste de certains Lem Show de Wilder, I.A.L. Diamond, dans le documentaire Nobody's Perfect Making Of. Ils expliquent en fait comment votre citation consolatoire, Alain Berenbaum, a été inventée. C'était la veille du tournage de la dernière scène, la fameuse dernière scène de certains Lem Show, et ils n'étaient pas du tout satisfaits de ce qu'ils avaient trouvé. Et puis ils se sont dit, bon, on n'a qu'à mettre personne n'est parfait, mais bon, on changera demain. Et en fait, c'est resté et c'est devenu une des...
répliques cultes de l'histoire du cinéma.
Exactement. Ouais. Et alors, c'est un moment où un milliardaire entiché de Jack Lemmon déguisé en Daphné fait tout pour l'épouser et Daphné lui dit « Mais je fume, je ne peux pas avoir d'enfant ». Il fait absolument tout pour lui échapper et puis finalement il enlève sa perruque et il dit « Mais je suis un homme ».
Nobody is perfect.
Alors, en dehors du fait que ce soit l'une des meilleures répliques de l'histoire du cinéma, Alain Berenbaum, pourquoi l'avoir choisi pour son fatalisme, pour son relativisme ? En quoi cela vous console ?
Oui, d'abord, je trouve qu'il y a... Il faut rappeler, on est dans les années 50, le code Heiss régit toujours l'industrie cinématographique, et il y a une manifeste provocation sexuelle de la part de Billy Wilder, comme il le fera d'ailleurs un peu plus tard dans un autre film qui s'appelle Kiss Me Stupid. Il adorait faire de la provoque sur le terrain sexuel, et c'est vrai que c'est un film ambigu, et c'est formidablement moderne, son propos. Puis je trouve aussi que Nobody is Perfect, c'est le contraire de ce qu'on voit dans les débats politiques aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a raison et il est plus possible d'avoir un débat. On a vu ça avec la fermeture de la revue Le Débat, justement. Il n'y a plus que des ukases. Il faut suivre le mouvement. Et Nobody's Perfect, c'est justement montrer que il y a quand même une grande relativité dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on pense. Et donc je trouve que c'est une leçon qu'il faudrait rappeler à pas mal de gens ces temps-ci.
Personne n'est parfait, ce sera les derniers mots de l'émission. Merci beaucoup d'être venu, Alain Berenbaum.
Merci.
Votre dernier roman, Le rêve de Harry, est paru en février dernier aux éditions Genèse, maison dans laquelle vous avez publié plusieurs autres ouvrages, dont Monsieur Optimiste, cité au cours de l'émission. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a l'éclat d'un bichon frisé dont le pelage serait du bain moussant. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10. Dans un instant, c'est On va déguster avec François-Régis Gaudry.